France Musique.
Étonnez-moi, Benoît.
Aujourd'hui spécial chansonnier avec Jacques Maillot et Florence Brunold, tous deux à l'affiche du Théâtre des Deux Ânes dans On est mal Macron, on est mal, dans la meilleure tradition des revues satirico-politiques. Une occasion de revenir avec Jacques Maillot sur le Théâtre des Deux Ânes et sa fabuleuse histoire, et aussi d'évoquer le parcours de Florence Brunold entre comédie et musique. On les retrouve dans un instant, mais d'abord toute notre amitié à celle qui vient de fêter ses 102 ans à deux pas de la maison de la radio.
Tu ne peux pas te figurer comme je t'aime. C'est si bon d'être câliné. Ça ne peut pas s'exprimer comme je peux t'aimer. C'est si doux dans tes bras, tu ne peux pas figurer. Quand ta main tendrement prend la mienne, quand tes lèvres me ferment les yeux, les chansons des amoureux diraient des mots merveilleux. Eh ben non, tu ne peux pas figurer. C'est encore bien mieux. Ma chambre donne sur le square, et d'habitude il y a du bruit, mais tout est différent ce soir, et l'on n'entend plus que la nuit. Mets-toi bien contre mon épaule, c'est ton cœur qui bat près du mien, ce sont tes mains qui me frôle. Oh mon amour, comme on est bien. Tu ne peux pas te figurer comme je t'aime. C'est si bon d'être câliné. Ça ne peut pas s'exprimer comme je peux t'aimer. C'est si doux dans tes bras, tu ne peux pas te figurer. Quand ta main tendrement prend la mienne, quand tes lèvres me ferment les yeux, les chansons des amoureux diraient des mots merveilleux. Eh ben non, tu ne peux pas te figurer comme je peux.
Et non, elle ne peut pas se figurer comme on l'aime, la chère Suzy Delair, qui a fêté le 31 décembre dernier ses 102 ans, tout près, je vous le disais, de la maison de la radio. Alors aujourd'hui, évidemment, c'est une dame très âgée, très fatiguée, mais elle est toujours proche de nous à travers les images de Quai des Orfèvres, à travers la vie parisienne, à travers ses films, ses chansons, et cette façon qu'elle a eue de rendre si vivant le Paris du Music Hall où elle a grandi. Imaginez que cette chanson qu'on vient d'entendre, c'était la chanson du dernier film de Laurel et Hardy, dont elle était la principale vedette féminine, d'un film intitulé Atolka, avec cette très très belle chanson de Paul Misraki. Voilà une façon en tout cas de redire à Suzy Delair bon anniversaire.
Thank you.
Le galop des soupirs, c'est ainsi qu'on pourrait traduire le titre de Seufzer Galop de Johann Strausberg au cours du concert du Nouvel An 2016 dirigé par Maris Jansons, le regretté Maris Jansons qui nous a quitté d'ailleurs il y a très peu de temps, mais c'était un peu eh bien son disciple qui dirigeait cette année le concert du Nouvel An, Andris Nelsons, que vous avez pu suivre voici quelques jours.
Étonnez-moi Benoît, Benoît Dutertre, France Musique.
Mais aujourd'hui, je vous l'ai dit, nous allons au théâtre et plus précisément chez les chansonniers, dans la grande tradition de tous ces chansonniers qui se succèdent depuis fort longtemps maintenant, au théâtre des Deux Ânes, avec aujourd'hui à l'affiche « On est mal Macron, on est mal ». Alors nos deux ânes aujourd'hui, eh bien ce sont Florence Brunold et Jacques Maillot. On va les retrouver dans un instant, mais puisque nous allons au théâtre, commençons d'abord par laisser la place à l'ouvreuse.
À l'Eldorado Palace, il y a 608 places, dont 48 strapontins, je les connais comme ma main. Car c'est moi qui suis l'ouvreuse, et comme j'ai la main heureuse, y a jamais de mécontent, du premier au dernier rang. La lampe à la main, j'ouvre le chemin, sans regarder l'écran qui donne les noms du générique. Je fais de la lueur pour le spectateur qui veut profiter des joies cinématographiques. Chacun son fauteuil, j'y mets mon orgueil, puis j'attends la fin dans mon petit coin sous la veilleuse. Moi je ne m'en fais pas, j'ai vu le film 10 fois, de l'Eldorado, je suis l'ouvreuse. À l'Eldorado, l'on passe des films d'amour et d'audace et des trucs américains à la graisse de tambourin. Je suis malade, je vous jure, quant au cœur de l'aventure, il faut faire lever les gens pour installer un client. La lampe à la main, j'ouvre le chemin, chocolat glacé, bonbon, toffee, pastille de menthe. Je fais de la lueur pour le spectateur, actualité, documentaire, semaine suivante. Chacun son fauteuil, j'y mets mon orgueil, la publicité humoristique ou bien sérieuse. Moi je ne m'en fais pas, j'ai vu le film 10 fois, de l'Eldorado, je suis l'ouvreuse. À l'Eldorado Palace, quelquefois je me sens lasse de travailler dans le noir quand sur l'écran il y a de la gloire. C'est alors que je voudrais être une de ces belles vedettes qui embrassent leurs amants en couleur ou noir et blanc. Le cœur sur la main, les deux yeux câlins, tandis qu'en gros plan scintillent mes cheveux blonds platines. Tous les grands acteurs me serrent sur leur cœur, me voilà la star des productions de la Golvine. Je côtoie du coude le tout Hollywood, dans les magazines y a mes photos en sorceleuse. Mais j'ai le cœur gros quand je rentre à Puto, à l'Eldorado. Je ne suis couvreuse. Mais mon petit mari m'appelle sa chérie et ça va très bien ainsi.
Voilà, ce n'est pas l'ouvreuse du théâtre des Deux Ânes, mais de l'Eldorado. Bonjour Florence Brunold. Vous aimez Odette Laure?
J'adore Odette Laure, et puis j'ai beaucoup entendu Odette Laure par le biais de Hubert, évidemment, qui a
voilà.
Fait des orchestrations formidables.
Alors, on fait Gex, le lien, parce que Hubert de Gex était mon invité il y a tout juste quelques semaines.
Hein. Ah oui!
Mais oui, c'est comme ça que j'ai redécouvert ces disques de chef d'orchestre qu'il a fait avec Petula Clark, avec d'autres, mais notamment avec Odette Laure. Mm-hmm. Et il faut dire que vous avez un lien un peu personnel.
Un petit lien, oui.
Avec Hubert de Jacques,
oui, 30 ans.
30 ans de lien. Et qu'il faut dire aussi, Florence Brunold, que vous êtes une comédienne, mais qui est venue beaucoup à la musique dans ses activités diverses.
Oui, je suis un peu touche à tout. J'aime bien toucher à tout, un petit peu. Et c'est vrai qu'on a eu un spectacle avec Hubert. Et s'il s'appelait Operettissimo, il était conducteur du car, alors il avait un piano à queue évidemment, alors il ouvrait de temps en temps le piano à queue pour faire l'essence, le plein d'essence. Moi j'étais la directrice de l'agence de voyage et on avait une charmante soprano léger qui venait chanter, mais c'était la belle opérette, France Léal, Reynaldo, Anne, Messager, Strauss.
Ici chez vous, alors ben voilà, pas tomber mieux, on va en réécouter un peu tout à l'heure.
Quand Jacques Maillot m'a dit tu viens avec moi, moi j'ai dit oui, ok.
Jacques Maillot, ça fait plaisir de vous revoir.
Mais c'est un plaisir partagé, cher Benoît.
Vous aimez Odette Laure?
Ah oui, j'aime beaucoup Odette Laure et je l'ai très bien connue parce que c'était une grande copine de Jean Rigaud et on se réunissait tous les ans pour la Saint-Pierre avec Pierre Delanoë et Pierre Cissère. Et on faisait une fête, et Odette n'était pas la dernière à...
Elle était aussi drôle dans la vie que sur
scène. Elle était extrêmement drôle, elle était très drôle. Et comme à l'occasion de cette soirée, Pierre Delanoë écrivait quelques couplets sur le coin de la table, elle se faisait un plaisir de nous les chanter en direct.
C'est pas mal, comme ça, les chansons de Pierre Delanoë au cours de la soirée. Très bien. Et puis aux rencontres du Palais Royal également.
Ah oui, j'ai fait les rencontres du Palais Royal avec le grand Jean-Michel Rosière.
Voilà, on a un peu oublié, mais c'était très important les rencontres du Palais
Royal.
Ah
oui, oui, oui. Notamment, il y a eu des rencontres sur les sujets de chansonniers, où il y a eu Robert Roca fait des rencontres du Palais Royal, et c'était des rencontres thématiques. Donc j'avais fait une rencontre sur l'opérette justement, et puis une rencontre surtout sur Jules Renard avec Robert Roca, et Odette Laure intervenait évidemment parce que Odette était la copine de tous les chansonniers.
Bon, donc j'ai pas trop mal choisi pour commencer. Je vous remercie. Vous êtes ensemble tous les deux sur scène au théâtre.
On est mal, Macron. On est mal.
On est mal, Macron. On est mal. Qui fait suite à Tout est bon dans le Macron.
Tout est bon dans le Macron.
Voilà. Donc
on décline le Macron. Voilà.
On va revenir tout de suite d'abord à ce spectacle, puis remonter un petit peu dans quelques-uns de vos souvenirs à tous les deux. Oh, j'ai ressorti un petit document, vous allez m'en vouloir, Jacques Maillot, mais moi je trouve ça très amusant comme chanson. Je vais peut-être vous surprendre.
Volontiers.
Nous on est cool, cool, nous les trois, ma boule, même quand on est dans la smoule. De Brivat, Vesoul, de Brest à la Bourboule, faites comme nous, soyez cool, cool. À la chambre, les députés s'engueulent. On n'arrive pas à savoir ce qu'ils veulent. Paraît que la France est coupée en deux. Que bientôt, ce sera le son qui peut. Nous, on ne voit pas ça comme ça. Tant qu'on a le gros Morois, les insultes du prince Pognat, Gastounet, ses poulets, le vrai chic de Georges Marchais, Jobert toujours en rodage, Edgar Franquet dans le potage, la bobine de Krasuki, Raymond Barre et son mépris, Le Pen qui fait du pétard, et Giscard dans son placard, Jacques Chirac pour faire fumer, le canu et de la paix. Nous on est cool, cool, nous les trois, ma boule, même quand on est dans la smoule. De Brivat, Vesoul, de Brest à la Bourboule, faites comme nous, soyez cool, cool.
Vous m'en voulez pas, Jacques Maillot?
Ah non, pas du tout, c'est un très bon souvenir. C'était l'indicatif de l'émission de Catherine Anglade, qui s'appelait Amuse-Gueule à l'époque.
En 84, apparemment.
Voilà.
Enregistrement, ouais.
Et on était allé enregistrer ça à Bruxelles, chez Kluger, qui était un producteur assez connu, qui a produit, je crois, la compagnie Créole, etc. Et comme on n'était pas des chanteurs professionnels, je sais que, là je parle aux techniciens, ils essayaient d'accélérer la bande ou de la ralentir pour qu'on chante juste. Voilà. Et c'était très compliqué.
Vous êtes avec Bernard Mabie.
Et François Diveau.
Et François Diveau, voilà. Les trois malboules qui sont cool cool. Moi j'adore, j'ai ce refrain dans la tête maintenant, je ne peux plus.
Rien n'a changé parce qu'on n'est pas toujours très
oui, c'est ça.
On n'est pas toujours très juste quand on chante.
La justesse absolue. Non. Mais il y a une chose qui n'a pas changé finalement depuis les chansonniers d'autrefois jusqu'à votre spectacle d'aujourd'hui en passant par Cool Cool, c'est qu'au fond c'est la satire politique. Là, on a tous les ministres.
Exactement.
De l'époque,
et
c'est
là,
pas Macron.
C'est le ministère Patraque que le Luron avait chanté sur les paroles de Jean Lacroix. C'est à peu près la même chose.
C'est le principe des spectacles du Théâtre des Deux Arts, l'actualité politique.
Oui, l'actualité politique et puis sociétale aussi. Donc on s'intéresse à tout ce qui se passe autour de nous et en particulier à un sujet qui vous concerne beaucoup en ce moment, c'est la ville de Paris. Parle beaucoup.
je sais pas, c'est un taxi qui m'a raconté une citation de vous à propos de l'entrée des Allemands dans Paris.
Oui, où je lisais aussi Anne Hidalgo avait été maire de Paris en 1939, jamais les Allemands ne seraient rentrés dans la capitale.
Dans Paris. Voilà, en tout cas, le spectacle, donc, On est mal, Macron, on est mal, c'est le deuxième volet, on l'a dit, d'une peut-être...
De la saga.
De la saga.
On n'en sait rien.
Ça a vu le jour comment? Vous écrivez les spectacles, Jacques Maillot? Vous les travaillez tous ensemble?
On travaille chacun de notre côté, puis après on met tout ça ensemble. Après, c'est un travail commun, individuel.
Chacun apporte ses propres textes, en fait, Florence Benoît.
C'est ce qui fait un petit peu la spécificité des deux ânes, c'est qu'on est une troupe.
Voilà.
Et c'est pas du tout évident, ça. Maintenant, ça on ne sait plus, ça n'existe plus la troupe maintenant.
Les troupes de chansonniers.
Les troupes
oui.
de chansonniers, ouais. Non, mais il faut un fédérateur comme Jacques, qui est chef d'entreprise aussi du théâtre, mais il est multitâche. Hein. On dit que les hommes ne sont pas multitâches, mais lui, il l'est, multitâche. Il s'occupe de tout, il s'occupe même de la chaudière du théâtre des Deux-Annes. Oui. C'est quand même ses activités très...
J'ai un diplôme du chauffagiste, en plus, bien, voilà.
Non, mais c'est vrai qu'il doit s'occuper de tout, des affiches, de fédérer.
Dans l'histoire des théâtres, d'ailleurs, on sait que les artistes qui ont racheté des théâtres, en général, finissent par se ruiner.
Oui, c'est
mais
vrai.
Vous, ça va.
Non, parce qu'on le gère au cordeau, oui. Mais je crois qu'il faut être là beaucoup, et ça c'est les grands aînés qui m'ont appris ça, Jacques Crépineau, Jean-Michel Rouzière, tous ces grands directeurs, m'ont appris comment il fallait gérer un théâtre, être le plus présent possible, oui. Et moi je peux pas le faire parce que je joue sur scène, c'est pas toujours
très facile. Oui, parce qu'il joue aussi, oui, c'est ça.
Mais ces directeurs-là, ils étaient dans le hall le soir pour accueillir leurs clients. Mmh. Je me rappelle de Jean-Michel qui prenait certaines dames un peu âgées par le bras et qui disait, mais mes chers amis, je vais vous emmener à la mezzanine, et voilà, il les aidait à...
Bah quand il y a quelqu'un de malade, tu descends dans la salle aussi, puis tu vas...
Oui, aussi.
Oui, ça arrive.
C'est un travail de tous les instants.
Je vous propose de faire quelques petits retours dans le passé, et pour commencer, tiens, ça tombe bien, puisque ça s'appelle « Illusion de gréviste », c'est une vieille chanson du répertoire de chansonniers, interprétée par Robert Roca.
Un mineur ayant fait grève obtint de l'augmentation 40 sous, c'était un rêve. Et dans sa jubilation, le soir il dit à sa femme, pour fêter ce jour vainqueur, prends chez le boucher 500 grammes de beefsteak en son honneur. La femme bonne ménagère dit, tu sais que c'est des prix fous, j'ai pris un beefsteak naguère, il m'a bien coûté 20 sous. Bah, t'es augmenté mon homme, t'auras ta livre de beefsteak. Ayant dit avec la somme, va chez le boucher qui très sec. Dis, mes garçons ont fait grève, j'ai dû les augmenter tous, comme il ne faut pas que j'en crève, je vends le beefsteak 25 sous. Ah, dit la femme, c'est dommage, v'là vos 5 sous de supplément, je les regagnerai sur le fromage, dont je prendrai un quart seulement. Le marchand de fromage est sans rêve, ou bien a-t-elle mal compris, dit, mes garçons ont fait grève, le fromage a doublé de prix. Eux aussi, comme c'est étrange, ils ont fait la grève. Enfin, il faut bien que tout le monde mange, je me rattraperai sur le pain. Mais le boulanger, ça l'achève, lui dit, je suis très embêté. Les mitrons ont fait la grève, v'là que le pain est augmenté. Du coup, elle dit, c'est atroce, je suis volé, y a pas d'erreur. Moi qui comptais faire la noce, parce qu'on augmente les mineurs. Moi qui bénissais la grève, elle va me ruiner partout. Les 2 francs qu'elle me donne un rêve, ils me coûtent déjà 50 sous. C'est, dit le boulanger, madame, que tout le monde est tant augmenté. Faut que quelqu'un paie, et dame, ce n'est pas les députés qui vous ont prêché la grève, qui paieront, y a pas d'erreur. Non, votre salaire s'élève sur le dos du consommateur. Ce sont donc ceux qui consomme, qui paye, et vous le voyez, la chose vous coûte en somme beaucoup plus que vous ne gagnez.
Une chanson de Fursy sous la Troisième République, Jacques Maillot, reprise donc par votre cher Robert Roca. Chanson, on pourrait dire, pas très progréviste, hein, un peu réactionnaire, mais oui. Ils sont souvent de droite, les chansonniers, non ?
Oui, Fursy, en dans l'histoire, était oui. Très droite. Oui, il y a plus de chansonniers de droite que de gauche.
C'est ça.
Oui. Robert Roca n'était pas particulièrement de droite, il était plutôt à gauche.
Ah oui, voilà.
Ouais. Mais Jean Rigaud était très à gauche, son témoin de mariage était François Mitterrand.
Donc, Edmond Meunier aussi.
Edmond Meunier était à gauche, ouais. Mais il y a eu effectivement...
Marcel Carré.
Voilà, et puis il y a eu Martini pendant la guerre qui lui était très à droite puisqu'il avait pris parti pour les Allemands.
Pour les Allemands, carrément.
Ouais. Donc il y a eu pas mal de gens un peu inquiétés à la libération.
Florence Brudol, vous êtes intéressée
de droite,
depuis...
De gauche,
non, c'est pas la question, je vous rassure. Vous vous intéressez très jeune aux chansonniers, vous en avez vu. Vous avez vu Roca,
oui.
Par exemple.
Oui, j'ai vu Anne-Marie Carrière, j'ai eu le déclic. Moi, je sortais d'un cours...
Un cours de théâtre.
D'un cours de théâtre, chez Jean Périmoni, et puis pendant un an, j'ai couru les productions. Alors j'étais soit trop petite, soit trop belle, soit trop moche, soit ceci, cela. Oh là là.
En plus, votre père voulait que vous soyez dentiste.
Oui, en plus, j'étais pas de la fratrie. C'est difficile quand on n'est pas du sérail. Et puis quand j'ai vu Anne-Marie Carrière et puis Jean Amadou, ça a été le déclic. J'ai dit, c'est ça que je veux faire.
Ah oui.
Alors j'ai un peu imité Anne-Marie Carrière au début. Hein, je parlais en vers et tout, mais bon, ce qu'il faut, c'est arriver à avoir sa personnalité, ce qui n'est pas, pas imité les anciens, mais ils m'ont beaucoup inspiré.
Beaucoup inspiré. Ouais.
Et puis j'ai commencé par le café-théâtre, parce que c'était la grande époque des cafés-théâtres, ça coûtait pas cher à l'époque. Ouais. L'argent n'était... Parce que maintenant, c'est vrai, c'est les marchands de
oui,
marchands,
c'est une industrie.
Marchands du temps.
Oui.
C'est une industrie, l'humour, maintenant. Pourquoi il y en a tant
voit,
pourquoi Alors qu'à l'époque, je passais mon filet à finance, c'est-à-dire j'avais affilé
au fanal,
filet de pêche, oui, au fanal, au bec fin, tout ça. Et puis voilà. J'avais même un chien dans un... Alors là je récoltais beaucoup d'argent parce que les gens, ils mettaient beaucoup pour le chien.
Ouais, parce qu'elle est très riche comme ça. On s'en rend pas compte, mais extrêmement riche grâce au chien.
Voilà.
Jacques Maillot, vous-même, vous avez commencé dans les cabarets. Vous avez vu d'abord, vous avez connu tous ces grands aînés, hein, à commencer
par
Rocca.
Oui, j'ai eu la chance de démarrer avec eux. Donc le premier spectacle que j'ai fait au théâtre de 10 heures, il y avait Pierre Détail, il y avait Robert Rocca, il y avait Jacques Grélot, il y avait Maurice Orgue. Jean Harold qui faisait des photomontages.
Le théâtre de 10 heures, c'était vraiment l'endroit important pour ce répertoire-là, à ce moment-là.
Oui, on disait que c'était la comédie française des chansonniers.
Ah, la comédie française des chansonniers.
C'était le directeur
habillés,
Raoul
hein.
Arnaud, il fallait être habillé en smoking. C'était très, très, très strict, mais c'était très formateur, parce qu'on était avec les meilleurs. Quoi.
Ah, voilà.
Et les deux ânes, à ce moment-là, c'était un peu moins important.
C'était pas pareil, c'était surtout le territoire de Pierre-Jean Vaillard et Christian Weibel, et donc c'était encore un fief à part. C'était très différent, parce que les deux ânes faisaient une revue que ne faisait pas le théâtre de 10 heures.
Voilà. Et il y avait le Caveau de la République aussi.
Oui, évidemment.
Et c'est là où...
Qui était le tremplin.
Qui était le tremplin.
On commençait par le Caveau, et puis on allait soit aux deux ânes, soit aux 10 heures.
Et c'est là où Martial Carré est venu me chercher dans un petit théâtre, dans un petit lieu où il y avait 10 personnes, et puis il m'a dit, bon, ben, si vous voulez faire une audition, et puis je me suis retrouvée dans cette salle de 500 places... Et je savais pas, j'avais jamais entendu un volume de rire comme ça. J'avais pas beaucoup de rire à l'époque, hein, mais enfin, c'était extraordinaire. C'était extraordinaire.
Quelques dentistes qui riaient.
Oui,
les amis
pour être gentil avec moi.
on va remonter, tiens, très loin dans le temps, en 1961, avec une chanson que vous aimez beaucoup, Jacques Maillot, c'est Édith Piaf à l'Olympia. Dans Mon vieux Lucien.
Oui, c'est un souvenir d'enfance parce que on avait apporté cet album à mes parents et là on y écoute Édith Piaf qui commence à être très fatiguée et qui se trompe dans le texte de Mon vieux Lucien et elle s'arrête, elle dit je vais reprendre parce qu'il va bien falloir que j'apprenne la chanson quand même, je vais pas faire ça tous les soirs. Et elle dit ça avec une sorte de générosité, de désinvolture et de drôlerie, et je trouve que de la part d'une grande chanteuse comme ça, c'est admirable.
Quelle chance que t'as d'avoir Lucien, un vieux copain. Comme moi j'aime bien rire et rigoler et m'amuser. En vrai, alors ce soir, histoire de rire, et comme ça, sans prévenir, j'ai dit comme ça, sans réfléchir, on va chez Lucien, que j'ai dit au copain, quel vieux copain que t'as en moi, mon vieux Lucien, crois-moi. Ça va? Remarquez, je me suis déjà trompée hier. Je vais la recommencer encore une fois parce qu'il faut que je me guérisse de ça, sinon je la chanterai jamais. Quelle chance que t'as d'avoir Lucien, un vieux copain. Comme moi, tu me connais, j'aime rigoler et m'amuser. En vrai, alors ce soir, histoire de rire, j'ai dit comme ça sans prévenir, je m'ai dit comme ça sans réfléchir, j'ai dit aux copains, on va chez Lucien, quelle chance que t'as d'avoir Lucien, un vieux copain. Comme moi, tu peux te vanter lorsque j'y pense d'avoir de la chance. Tu sais, mais tu ne dis rien, tu me laisses parler. Je te connais bien, tu me fais marcher. Moi, ça ne fait rien, tu peux y aller. Mais maintenant, ça va. Et dis-moi pourquoi tu fais cette tête-là, comme ça. Mais regarde-moi, t'as les yeux gonflés. Je t'ai réveillé. Oh non, t'écrivais à ta bien-aimée. Qu'est-ce que tu caches là, là dans ton tiroir? Eh ben quoi, fais voir. Tu voulais me faire peur.
Oh, ce que t'es blagueur. Quelle chance que t'as d'avoir, Lucien, un vieux copain. Comme moi, moi, je te connais mieux que personne, c'est ce qui t'étonne. Pas vrai, un autre que moi ne comprendrait pas, mais moi, je devine que tu me taquines. Tu veux peut-être finir ta lettre, je vais te dire aux copains, et puis tu nous rejoins. Quelle chance que t'as, c'est pas pour dire que j'aime bien rire. Crois-moi, un autre que moi aurait marché à ton ciné. Pour moi, allez, au revoir, à tout à l'heure. T'en fais une tête sacrée farceur. Moi non, bien sûr que j'ai pas peur. Toi, y a pas de danger de te voir un jour souffrir et mourir d'amour. Lucien. Eh ben quoi, Lucien? Donne-moi ce que t'as dans la main. Ah, c'est agréable d'être ton copain. Oh non, Lucien. Allez, viens.
Édith Piaf en 1961, c'est admirable.
Impressionnant. Hein. Ouais, c'est très impressionnant. Ouais.
Jacques Maillot, vous êtes un vrai connaisseur du musical parce que vous m'avez tout de suite dit le nom du pianiste que j'ignorais, Jacques Lesage.
Ouais, qui a accompagné après Thierry Leluron. Ah, voilà. Et on le retrouve dans Le Luron du dimanche. On voit très souvent Jacques au piano.
Ah, voilà.
Et je crois qu'il a fait pratiquement toute la carrière de Thierry. Et c'était le chef d'orchestre d'Édith Piaf à l'Olympia. Et c'est lui qui a orchestré « Non, je regrette rien », toutes ces chansons.
Ah oui, alors vraiment...
Vous prenez des leçons, hein,
document. Oui, oui, j'en apprends tous les jours, et surtout quand Jacques Maillot vient ici. Avec Florence Brunol, vous êtes ensemble donc en ce moment sur la scène des deux ânes.
Oui, avec Michel Guidoni, avec Gilles Détroit, avec la petite dernière, Emilienne Charlotte, qui chante, et puis Paul Dureau.
Un jeune chansonnier.
Paul Dureau, voilà. Voilà.
Vous vous êtes rencontrés comment, tous les deux?
Il y a très longtemps,
oui. C'est Catherine Anglade.
Ah non, on s'est rencontrés au Théâtre des Deux Ânes, justement.
Oui, au Théâtre des Deux Ânes. Ouais.
Maurice Sorgue avait écrit une revue pour Anne-Marie Carrière qui s'appelait Madame Rose et au parfum. Ouais. Et Boris m'a dit, on a trouvé une jeune comédienne qui est très rigolote, tu vas voir. Elle s'appelle Florence Brunol. Et j'ai vu arriver une sorte de personnage un peu bizarre, en salopette, et qui faisait de la planche à roulettes.
Ah, vous êtes allé en planche à roulettes au
C'est-à-dire, on m'avait forcé à faire la planche. J'adorais ça. La planche à roulettes sur le théâtre sur la scène du Théâtre des Deux Ânes, qui à l'époque était en pente.
Oui, exactement, donc c'était très dangereux.
C'était très dangereux, et si on allait un peu trop loin, on arrivait dans la fosse d'orchestre avec Valentino au piano.
Mais alors, il faut dire, Florence Brunol, donc vous nous avez dit d'abord que vous aviez été formée par Jean Périmoni,
c'était quelqu'un qui vous a beaucoup marqué. Oui, bien sûr, bah oui, le classique, ça marque, hein. On apprend à parler, on apprend à se tenir en son nom. Et Claudel, et puis les Molière, et tout ça, c'est là où on apprend. Hein,
vous avez eu, vous nous l'avez dit à l'instant, le déclic plutôt devant des spectacles, donc de chansonniers.
Je voulais faire rire, de toute façon, je voulais faire rire.
Ça, c'est salutaire.
Mais j'ai fait du chansonnier avant, très très jeune, puisque c'était... J'imitais mes profs et puis bon, on a tous commencé comme ça. Mais j'ai eu le déclic, oui, j'ai eu le déclic. Et puis bon, avec la possibilité d'écrire un petit peu, j'ai eu de la chance d'écrire mes textes, quoi, puisque personne ne voulait s'occuper de moi.
On
va faire ça tout seul. Puis c'est la liberté.
Un peu cerné par les chansonniers, parce que le père de Florence était très ami avec Jean Valton. Ah oui. Qui lui aussi était dentiste d'origine.
Et oui, ils ont fait dentaire ensemble.
Qui était un grand chansonnier, grand imitateur
surtout, Jean. Et donc, je pense que ça a beaucoup influencé
Florence. Oui, Jean Valton m'a dit, va donc voir au caveau de la République, ils ont besoin de... Bon.
Alors, parmi vos spectacles, hein, on peut citer Le Pestacle.
Le Pestacle avec Hubert, oui. Avec on avait Hubert des numéros musicaux burlesques avec une symphonie... Enfin, à quatre mains, on jouait à quatre mains.
Au piano.
Un Liszt, voilà.
C'était... Un autre spectacle qui s'appelait Politiquement Incorrect.
Oui, c'est ça. Voilà. Et puis, que j'ai joué aux Deux Ânes.
Oui,
on
exact.
A joué aux Deux Ânes, oui.
Et puis, vous avez également, au théâtre, joué avec Sim, qui était aussi un de vos amis.
Oui.
Regretté
deux ans avec Sim, c'était formidable. Et là, j'ai appris le métier de clown. parce que c'était un clown, Sim, hein, avec un grand C. Hein,
c'est vrai.
C'est formidable d'apprendre avec lui. Et là, c'était 2 ans de bonheur parce que c'était un être exquis, quoi.
Une cloche en or.
C'était le nom de
la pièce.
De cette pièce.
Avec un succès fou. Ouais.
Par Sim. Et quant à vous, donc Jacques Maillot, vous avez commencé alors au cabaret aussi, au temps où il y avait encore beaucoup de cabarets à Paris, pour les jeunes artistes. Et je voudrais qu'on revienne un petit peu aussi à vos souvenirs de l'échelle de Jacob et de François de Gueldt.
Oui, qui a été un vrai copain formidable.
L'échelle de Jacob, d'abord, ça jouait quel rôle dans la diversité des lieux parisiens? Ils avaient chacun un peu leur spécialité, leur style.
Là, c'est là où a débuté Jacques Brel. Enfin, Jacques était même actionnaire par le biais de son camarade Pasquier. Ils avaient pris des parts à l'échelle de Jacob. Et quand Jacques a décidé de s'arrêter, avant son Olympia, il est venu faire 15 jours gratuitement à l'échelle de Jacob pour la patronne Suzy Lebrun, qui était un personnage extraordinaire, une ancienne coiffeuse qui avait découvert Brel, Maurice Fanon, etc., qui parlait pas forcément un français particulièrement châtié, mais qui était extraordinaire.
C'était rue Jacob, j'imagine.
C'était rue Jacob, au 10 rue Jacob.
Au 10 rue Jacob.
Et là, j'ai démarré grâce à cette femme, grâce à Suzy Lebrun, et j'ai démarré avec les Frères Ennemis, avec Marie-Paul Bell, et dans le spectacle, il y avait quelqu'un auquel elle tenait beaucoup, parce que je crois qu'elle avait eu une aventure avec lui, c'était François de Gueldt.
Alors, il est bien oublié aujourd'hui, François de Gueldt.
Ouais. Hein. Et on est devenus très copains. Après, il avait ma cousine et j'ai fait mes premiers galas. C'était au Casino de Coutainville avec François de Gueldt.
Casino de Coutainville, vous voyez ça. vous vouliez devenir quoi à ce moment-là? Chansonnier?
Alors, à l'époque, je faisais des sketchs. C'était pas particulièrement politique. Et après, comme Maurice Orgue m'a fait engager au théâtre des Deux Ânes, au théâtre de 10 heures, pardon, avec Patrick Fonte, qui m'a énormément poussé pour aller au 10 heures, je me suis mis à faire de la politique. Et puis après, j'ai rencontré deux personnages qui s'appelaient Caudou et Garetto, qui m'ont engagé à L'Oreille en Coin, et là je suis devenu vraiment...
La radio a pris le relais, on se rappelle tous, en tout cas pour beaucoup d'entre nous. Mais on va écouter François de Gueldt, justement, parce qu'elle est très drôle, c'est pas une chanson, c'est un sketch, puis une chanson, hein, il ne se passe jamais rien.
Oui, parce qu'on connaît François comme crooner, le ciel, le soleil et la mer, avec mais au cabaret, il faisait un tour de chant extraordinaire, c'est-à-dire qu'il interprétait ses chansons et il faisait un sketch en même temps.
Voilà.
Et ça, c'est un côté pas très connu de François, et il le fait divinement bien avec cette très jolie voix qui était la sienne.
Vous savez, quand il a fait très 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 chaud dans la journée, quand on est en vacances dans le midi, et que vraiment on a eu très chaud, ben le soir on est content d'aller prendre un petit peu la fraîcheur sous les platanes. Et alors là, invariablement, on les rencontre. Il y en a toujours 5 ou 6 par village, vous voyez, sur le coup de 7h30, 8h moins le quart, ils viennent s'installer sur leur banc, avec le béret ou la casquette en avant, comme ça, et la gitane maïs éteinte. Et c'est très important, ça, vous comprenez, monsieur. Moi, je fume 4 paquets par jour, et c'est le papier qui me fait mal. Mais vous avez eu raison, monsieur, de venir en vacances dans le coin. Parce qu'ici, vous voyez, on est bien, on est, comment dirais-je, détendu. On ne s'énerve pas comme vous à Paris. Moi, vous voyez, je suis vieux, il y a longtemps que je ne travaille plus. Vous pensez, monsieur, j'ai 52 ans. Et puis, j'ai été malade, vous voyez. Ça fait 20 ans que la sécurité sociale, elle m'a pris sous son aile. Et vous allez voir comme c'est bizarre, la vie. Je suis tombé malade parce que je mangeais trop d'oursins et trop de poissons. Et ça m'avait provoqué un genre de dilatation du cerveau qui me rendait trop intelligent et que j'ai la tête, elle a failli éclater. Dites. Vous vous rendez compte? C'est mon père qui a été surpris quand ça m'est arrivé, cette maladie. Il m'a fait comment? Un grand couillon comme toi, il fallait que tu m'attrapes ça. Alors je suis allé voir le médecin à Olioul, là. Et il n'a rien trouvé. Alors je suis allé voir le spécialiste à Toulon. Et il n'a rien trouvé non plus. Et ça fait 15 ans qu'il cherche, qu'il cherche, qu'il cherche. Et ils n'ont rien trouvé. Heureusement pour moi d'ailleurs. Moi je touche ma petite pension, vous voyez, parce que quand ça m'est arrivé, ce grand malheur,
quand j'ai cessé toute activité professionnelle par le fait, j'avais 32 ans, voyez. Et comme j'étais employé à la mairie et que le médecin, il avait dit peut-être que ça pourrait provenir d'un effort intellectuel un peu trop violent, ils ont cru que j'étais employé aux écritures, voyez. En réalité, moi, je balayais les feuilles pour la municipalité et je me gardais les champignons pour moi, ce qui est de bonne guerre, hein. Évidemment, je vous dis pas que ma petite pension, c'est la fortune. Mais enfin, je me débrouille, vous savez, je déjeune chez l'un, je dîne chez l'autre. Et puis, comme disait un philosophe de mes amis, pour manger deux fois par jour et dormir dans son lit, c'est pas la peine de fonder une société anonyme. Remarquez, je vous raconte tout ça, mais moi, dans mon petit pays, là, il ne se passe jamais rien dans ce petit pays perdu. Les retraités s'y trouvent bien et les voitures n'y passent plus. On vit sa vie sous les platanes et tous les jeunes gens s'ennuient parce que le jukebox est en panne et que le bruit s'est interdit. Il ne se passe pas grand chose. La femme de Titain s'ennuie, mais elle était encore fraîche et rose, et pas sauvage à ce qu'on dit. Et l'on s'embarque pour Citerre, dans un petit pointu joli, qui s'éloigne un peu de la terre. Et tu m'as pas vu, tu m'as pas pris. Il ne se passe jamais rien. Paradis de la belote. Et de temps en temps, le pharmacien y trompe l'ennui. Avec Lolotte, Lolotte, c'est la mauvaise nuit. Lolotte, c'est la mauvaise herbe. Et quand on en parle, nous, c'est qu'on en rit. Ou qu'on s'en fâche, ou qu'on s'emmerde. Elle tisse sa mélancolie dans sa jolie prison de rose, où sa jeunesse se languit derrière ses fenêtres closes. Et vous, monsieur le Parisien, qu'est-ce que vous faites dans son jardin, hein? Je vous ai vu l'autre matin, il était bien allé, 5 heures. Et dites, on se lève de bonne heure à Paris, je trouve. Et vous n'étiez pas précisément en train de tailler les roses? Enfin, moi, ce que je vous en dis, ça ne me regarde pas. Puis de toute façon, ici, monsieur, il ne se passe jamais rien. Allez, au revoir, monsieur. Bonjour chez vous. Je m'en vais. Au revoir, monsieur. À bientôt. Au revoir.
Il ne se passe jamais rien. J'aime beaucoup cette idée de François de Gelt, donc enregistré dans son cabaret, hein, Jacques
oui,
Maillot.
Oui, chez ma cousine, Place du Tertre.
Place du Tertre, bien nommé.
Et François avait un lien avec les chansonniers parce que il a longtemps chanté au caveau de la République, parce qu'il y avait une tradition au caveau, c'était d'engager aussi des chanteurs. Et c'est pour ça que Georges Brassens a pu débuter au caveau de la République. Enrico Macias.
Ah oui.
Et François de Gelt. Et François, quand souvent nous on trouvait le public très mauvais, on disait, ils sont très durs ce soir. Et François disait, vous allez voir, moi je vais les avoir. Et avec ses chansons sketch, hop, il se les mettait.
Il emportait le morceau.
Il emportait le morceau.
Il y avait combien d'endroits pour les chansonniers à vos débuts? Il y en a combien aujourd'hui?
Il y avait les 10 heures, les deux ânes, le caveau et la tomate, mais ça venait de fermer. C'était le cabaret de Robert Roca.
Voilà. Et aujourd'hui?
Et aujourd'hui, bien, il y a le théâtre des deux ânes et c'est à peu près tout.
Et c'est à peu près tout. Peut noter à peu près la même évolution pour tous ces cabarets de chanteurs.
Tout à fait, tout à fait. Qui ont tous fermé, l'Écluse, l'Échelle de Jacob.
Le caveau de la République est devenu le République. Ouais. Le République.
Et puis la fameuse Galerie 55 où se produisaient Jean-Yann, Hubert Deschamps.
C'était l'endroit des humoristes.
L'endroit des humoristes. Ouais.
Voilà. Ouais. Alors, est-ce qu'on peut dire d'ailleurs, Jacques Maillot, vous citiez à l'instant l'oreille en coin, que au fond la radio et la télévision ont quand même d'une certaine façon, avec certaines émissions, pris le relais des théâtres de chansonniers à un moment, avec Bouvard, avec France Inter, L'Oreille en Coin.
Ça, on doit beaucoup à Pierre Caudou et Jean Garretto d'avoir repris cette idée, puisqu'ils ont commencé avec Alex Métayer, puis très, très rapidement ils se sont rendus compte qu'il fallait faire plus d'actualité. Donc là, ils ont engagé Jean Amadou. Et quand Jean est parti à la télévision, ils m'ont demandé de venir dans l'équipe avec Maurice Orgue, Patrick Burgel, et c'est là qu'a commencé la grande aventure de L'Oreille en Coin.
C'était donc vraiment presque la même chose qu'un spectacle.
C'était la même chose, hein. Absolument. D'ailleurs, voilà. C'était un peu ce qu'était le grenier de Montmartre jadis, sauf que nous, on sévissait le dimanche matin de 9h30 à midi, alors que le grenier était en début d'après-midi, mais toujours le dimanche.
Et Philippe Bouvard, entre la radio et la télé, a aussi été un animateur de chansonnier, on peut
énorme.
Dire.
Énorme. C'est lui qui m'a fait débuter à la télévision dans 10 de Der, et il a beaucoup aidé les chansonniers, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mmh. Il était attaché de presse, il ne faut pas l'oublier, du théâtre de 10 heures.
Ah bon ?
Parce que avant que Philippe soit journaliste, il a été attaché de presse. Il était déjà au Figaro, oui. Et il faisait la presse du théâtre de 10 heures. Et c'est la raison pour laquelle Philippe a choisi comme marraine Madame Arnaud pour sa fille aînée.
Bien voilà. Sûr, tout se tient, tout se tient. Florence Bruneau, la télévision, vous l'avez pratiquée aussi avec notamment La Classe.
Il y avait La Classe,
c'était
oui.
Quoi La Classe alors?
Oui, La Classe, c'était des petits rigolos. C'était, il y avait, comment il s'appelle je me souviens pas de tous les noms.
Fabrice.
C'était Fabrice qui organisait ça. Et puis c'est le producteur, c'était le
Jacques Antoine et Jacques Solness.
Oui, c'est ça.
Voilà.
Oui, oui.
Et Guy Lux également.
Et Guy Lux surtout qui était là. Oui, oui. Oui, La Classe. Moi, je me tourne pas tellement vers le passé. C'est terrible. Je regarde pas. J'ai pas de rétroviseur dans la vie et j'oublie terriblement. Par contre, ce que j'ai pas oublié, c'est les émissions avec Catherine Anglade, Pas sérieux s'abstenir. C'était du direct le dimanche. C'était extraordinaire.
Ça, c'est beau souvenir.
Ça, c'était des souvenirs extraordinaires. Ouais. Ça.
Et votre spectacle, donc Opérettissimo, dont vous avez dit un mot tout à l'heure. Alors ça, c'est aussi.
On l'a joué au Tambour Royal pendant 2 ans d'affilée. Il y avait Françoise Krief, qui est une soprano léger. J'aime l'opérette avec des voix comme ça où on comprend.
Qui sont du théâtre autant que de la musique.
Ouais. Voilà, ce sont des interprètes vraiment des comédiennes qui chantent. Et elle a une voix charmante. Et c'est vrai qu'on a eu beaucoup de succès là-bas. D'ailleurs, je crois qu'on avait fait une émission à France Musique avec.
Et c'était une volonté que vous aviez eue, vous, de rendre hommage un petit peu à l'opérette?
C'est-à-dire que c'était Françoise Krief qui avait demandé à Hubert, est-ce que tu ne veux pas m'accompagner?
Toujours,
voilà, je voudrais faire un spectacle sur l'opérette. Et puis je lui ai dit, attendez, vous n'allez pas faire ça tous les deux, moi je vais venir. Et je remettais les chansons dans leur contexte humoristique et artistique et historique. Et j'étais donc la directrice de l'agence de voyage et ça plaisait beaucoup aux gens.
Voilà.
Et puis après, on a fait un spectacle pour enfants aussi qu'on a été joué au Liban.
Voilà. Ah oui, avec Carlos Ghosn.
Oui, avec Carlos Ghosn.
Je sais bien, Jacques Caillou, mais toujours à l'actualité.
Vu qu'on a joué un peu partout aussi.
On va écouter justement un petit extrait de la chanson de Villa de Léard. Vous l'aimez beaucoup,
France
cette
Léard.
Chanson?
J'aime beaucoup cette mélodie. J'aime beaucoup cette mélodie. Puis il y avait aussi L'amour masqué de Sacha Guitry.
Bien sûr.
Écrit par Sacha Guitry. D'ailleurs, il y avait une très jolie anecdote parce que André Messager, c'est Sacha Guitry qui a demandé à André Messager d'écrire la musique
de L'amour masqué.
Ouais. Et puis il dit, je veux bien tenir le rôle principal, mais je veux pas chanter.
Ouais.
Et c'est pas évident pour un compositeur de faire une musique où le premier rôle ne chante pas. Et André Messager a essayé de convaincre
Guitry.
Il lui a dit, faites-moi un A. Et puis alors, Guitry lui a poussé un A tellement épouvantable. Il a dit, écoutez, maître, c'est la seule note qui ne soit pas dans la partition. Et puis évidemment, c'est
heureusement,
c'est
Yvonne Printemps était là.
Yvonne Printemps.
Pour rassurer la musique.
Très bien.
Merveilleusement bien.
On écoute cet extrait de l'air de Villiers, donc par votre complice.
Par Françoise Krief, absolument.
Françoise Krief.
Villiers, oh mon cher tourment, écoute la voix de ton pauvre amant. Villiers, oh Villiers,
T'es jolie, hein?
Très jolie. Hein? Merci, Florence Brunol, de nous avoir apporté cet enregistrement de votre amie complice donc, du spectacle Opérettissimo. Mm-hmm. Et aujourd'hui, donc, je rappelle, vous êtes avec Jacques Maillot et quelques autres aux Deux Ânes, sous-titré Théâtre désobéissant, Jacques Maillot.
Oui, parce qu'on passe notre temps à désobéir, nous, les chansonniers, finalement. On est des...
fait du mauvais esprit.
On fait du mauvais esprit. Oh, c'est-à-dire, moi, j'ai commencé au lycée et même au collège chez les bons pères. Et je crois que j'ai continué et je ferai ça jusqu'à à la fin de mes jours, je pense. Quoi.
C'est... Vos victimes viennent quelquefois vous applaudir ou au moins,
Ah oui, ça nous arrive. On a eu le président Valéry Giscard d'Estaing qui est venu fêter son anniversaire avec toute sa famille. Ils étaient 18.
Ça montre un sens de l'humour.
Ah oui,
Anémone. Hein.
Oui, avec Anémone. Et c'était très sympathique, une soirée très, très chaleureuse. Et puis on a des politiques qui viennent nous espionner très longtemps. Il y a eu le président du Sénat qui venait beaucoup, M. Monory, qui était un habitué.
Aussi,
ouais. Et puis, on a Jean-François Copé, qui est un grand fan des chansonniers.
Roland Dumas, qui nous a
même écrit des lignes délicieuses dans ses ouvrages au sujet du théâtre des Deux Ânes, qui est un habitué.
Ah oui, mais pas encore eu Emmanuel et Brigitte Macron.
Pas encore, mais c'est pas impossible.
Vous êtes associé dans de nombreux spectacles depuis pas mal d'années, Florence Brunol et Jacques Maillot.
Mais oui, depuis. Oui. On s'est rencontrés donc en 78 au théâtre des Deux Ânes avec Anne-Marie Carrière et Maurice Orgue. Et depuis, on s'est souvent croisés, fréquentés. C'est Florence qui m'a incité à aller jouer au Fanal. Chez son ami Eddy Suffet, qui était un café-théâtre formidable. Un jour, elle m'a téléphoné, elle m'a dit « Faut que tu fasses du café-théâtre comme tout le monde. » Et je me suis retrouvé avec un spectacle que j'avais écrit pour la campagne présidentielle de Valéry Giscard d'Estaing, justement, qui s'appelait « La chasse est ouverte ».
Voilà. Voilà, c'était en référence au safari, non?
Non, c'était parce que la campagne électorale commençait avec l'ouverture de la chasse.
Eh ben oui, bien sûr.
Et je me suis dit, voilà, il y a un parallèle à faire.
On est mal, Macron, on est mal. On peut en dire un petit peu plus sur la substance du spectacle, les sketchs, les sujets, les participants, etc.
Oui, alors on parle évidemment du président de la République, ça c'est certain. On en parle même beaucoup. On parle de ses ministres, des choix judicieux qu'il a l'habitude de faire. Et puis on parle de l'actualité en général, on parle beaucoup de notre chère capitale de Paris.
Ah oui,
on
aussi,
parle
de
Madame Hidalgo qui perce des trous et je dis qu'elle doit chercher du pétrole puisque il y a un embargo iranien, donc peut-être qu'on va trouver. Et je dis surtout qu'elle a bouleversé la notion de transport à Paris puisque vous comme moi, vous devez vous rappeler qu'on pouvait faire Paris, New York en Concorde en 3h15, et qu'aujourd'hui on peut faire Porte de la Chapelle, Porte d'Orléans 6h30 à peu près. Voilà, donc on parle de tout ce qui nous entoure.
Elle n'a pas vu, elle.
Non, je pense qu'il vaut mieux pas pour elle.
Tout ça, c'est donc au Théâtre des Deux Ânes, avec un peu de musique aussi.
Ah, beaucoup même.
Oui, il y a beaucoup. De la chanson.
Michel Guidoni chante beaucoup. Et puis on a une chanson d'ouverture où on fait...
On va l'écouter.
Sur l'air de Les Petites Femmes de Pigalle, on a fait Macron, on est mal, on est mal.
Macron, on est mal, on est mal. On va écouter nous un petit extrait de la chanson, je crois, d'ouverture, avec la présentation des participants. Et puis un petit bout du premier sketch de Florence Brunold.
D'accord.
Comme on a un jeune gars maintenant à l'Élysée, c'est fini le ronron. Il nous dit ce qu'il fait, même si c'est jamais fait, et la France tourne en rond. Oui, mais ce soir tout va changer et tout va s'éclairer. On va vous expliquer avec Emiliane Charlotte, Florence Brunold, Gilles Détroit et Jacques Maillot.
Ah oui, non, mon jardin est dans un état épouvantable. Je ne m'entends pas avec mes jardiniers. C'est vrai que c'est difficile de trouver un bon jardinier maintenant. Hein. Moi, par exemple, un jour, j'engage Nicolas le jardinier, bien sûr. Un petit gars de banlieue, de la banlieue ouest.
Bon, il avait dû choper des tiques dans mon jardin, je sais pas. Mais il ménageait pas sa peine, hein. Il était sympa comme tout. Bon, il courait dans tous les coins du jardin, un coup à droite, un coup à gauche. Mais au bout de 5 ans, il a fini par se prendre un râteau. Qu'est-ce que vous voulez? Bon, après, j'engage Flamby. Un petit gros à lunettes. Bon, lui non plus, il ménageait pas sa peine. Si vous voulez, le matin, il mettait son casque de moto, il prenait son scooter, il partait biner toute la journée. Je lui ai dit, Flamby, vous allez vous fatiguer à biner comme ça toute la journée. Mais il faut dire qu'avec lui, la roseraie était magnifique. Il y avait une roseraie. Ah oui, madame, vous savez, j'avais des roses magnifiques. Il faut dire qu'il avait pris le parti pris de la rose. Alors, j'avais par exemple une royale du Poitou. Un superbe rosier aux fleurs de démocratie participative. Un rosier pleureur. Oh oui, mais c'est un rosier qu'on a repiqué au pôle Nord. Enfin, repiqué, elle était déjà un peu avant. Au pôle Nord et au pôle Sud, hein, parce que c'est une plante qui est bipolaire. Hein. Mais elle a bien supporté la rigueur du froid polaire. Hein. C'est vrai qu'avant, elle était un petit peu fondue, maintenant elle est complètement givrée, la pauvre plante. C'est pas... J'ai eu aussi un Strauss-Kahn flamboyant. De toute beauté. Ah, oh, c'était magnifique à voir. Bon, c'était pas un rosier pleureur, là, c'était un rosier grimpant. Je n'ai jamais pu le présenter au concours horticole de la rue de Solferino, parce que figurez-vous qu'il a une maladie qui est bien connue des jardiniers, d'ailleurs la teigne du poireau.
Et voilà, Florence Brunol, bravo, c'est très drôle.
J'aime bien prendre des chemins de traverse pour parler de la politique. Ça a été à travers, après j'ai fait un sketch à travers les chiens, et cette année c'est l'histoire de France que je revisite un petit peu, voilà. De Sarkozy à nos jours.
C'est écrit Macron. De A à Z, là, où il y a une part d'improvisation, comment ça se passe?
Non, c'est... Ah non, on n'improvise pas. C'est à la virgule près, au
à
souffle.
À la virgule près. Ah,
c'est une partition de musique.
Hein. C'est vrai.
Et quelquefois, on se demande, mais pourquoi j'ai pas fait cet effet? Pourquoi il s'est pas fait? C'est parce que on n'a pas laissé assez de temps, on a pris trop de temps. C'est une partition de musique, c'est d'une précision, l'humour, c'est vraiment, c'est difficile, quoi. C'est, de faire rire, c'est pas évident.
Jacques Maillot, vous aussi, vous êtes un adepte de la précision de l'écrit.
Oui, j'ai mes points de référence, c'est-à-dire que j'ai mes points d'appui.
Oui.
Et à partir de ces points d'appui, moi, j'improvise.
Il y a une part d'improvisation.
Voilà, je rajoute
comme un
des choses. Voilà.
Florence serait plutôt une classique.
Voilà, c'est ça. Voilà. C'est-à-dire que
j'improvise aussi un petit peu.
Je tiens à avoir mes points de référence, c'est très important. Ah, oui. Pour, c'est la charpente, c'est l'ossature, la colonne vertébrale d'un spectacle, mais ça n'empêche pas d'improviser, de rajouter au fil de l'actualité.
Moi, j'aime bien jouer avec le public aussi.
Aussi, bien sûr.
C'est un peu la tradition aussi, et ça, j'essaie de perpétrer ça. Ouais. J'aime bien. Les gens, ils se mettent au premier rang, je les tutoie, je les rabroue, et ils sont ravis. Hein.
Alors, le théâtre des Deux Ânes, c'est vraiment un fleuron, on peut dire, du quartier Montmartre, préservé, hein, au même titre que le Lapin Agile, le Moulin Rouge et quelques autres endroits.
C'est un théâtre classé, classé, et on est juste à côté du Moulin Rouge, donc on a là deux monuments de Paris. Quoi.
Mais vous faites partie aussi du circuit touristique, où vous avez aussi un public d'habitués, d'amoureux du cabaret?
Ah, il y a des habitués qui viennent chaque année, on le sent, qui prennent leur place très à l'avance dès qu'on ouvre la location au mois de septembre, et puis il y a un public de chalands, comme on dit, qui passe, qui vient nous voir, qui nous regarde quelquefois à la télé ou qui nous écoute, et qui font le voyage à Paris. On fait partie du circuit, quoi. Ils font un boulevard, ils font une comédie française quelquefois, et puis ils viennent au théâtre des Deux Ânes.
Et on a des familles, hein. En ce moment, on a beaucoup de familles. C'est les grands-parents jusqu'aux petits-enfants.
Ce qui est amusant, c'est que ce théâtre des Deux Ânes, il a été notamment dirigé alors par un chanteur, pour le coup, qu'on connaît tous, par l'opérette marseillaise. Et on voit pas très bien ce qu'il faisait sur le boulevard, mais c'était le patron, c'était Alibert.
Oui, Alibert, qui était donc le beau-frère de Vincent Scotto.
Oui.
Et c'est très curieux qu'ils aient acquis ce théâtre-là. Je pense que ce qui les a attirés, c'était la revue, puisqu'on chantait beaucoup dans la revue et que Scotto écrivait des chansons pour la revue.
Il y a toujours eu voilà, des revues avec de la chanson voilà. En fait aux deux ânes. Oui, c'est
donc
ça,
je pense que c'était le point de départ. Et comme Alibert était très argenté parce qu'il gagnait beaucoup d'argent, c'était une énorme vedette, donc il avait l'ABC et il avait le théâtre des deux ânes. Et puis après, juste après la guerre, il l'a vendu à Jean Herbert, qui était mon prédécesseur jusqu'en 1995.
Et qui a bien tenu la maison.
Admirablement. Un grand bonhomme qui a démarré sa carrière de théâtreux, si je puis dire, au Théâtre des Célestins. Il était administrateur des...
À Lyon.
Voilà, exactement.
Parmi les habitués du Théâtre des Deux Ânes, alors on a évoqué les politiques tout à l'heure, mais on pourrait citer aussi quelques autres personnages, par exemple Maurice Druon.
Ah, Maurice Druon était un adepte, il venait voir tous les spectacles. Ah oui. Parce que...
secrétaire perpétuel de l'Académie
absolument.
Française, quand
même. Il venait avec sa grande cape et il partait dans les...
Avec sa cape.
Avec sa cape et sa cale, et il sortait dans l'impasse et il me disait, alors Jacques, à la prochaine revue... parce que vous comme moi, nous sommes des résistants. Et évidemment, on sait que Maurice avait écrit ce formidable chant des partisans.
Le chant des partisans, ouais.
Et il adorait venir aux deux ânes. Et comme c'était venu aux oreilles de Franz-Olivier Gisbert, ouais. Franz nous avait invités dans une émission littéraire. J'étais avec Maurice Druon et Régis Debray. Ah, ouais. Et Maurice, c'est quand Régis Debray écrit ce formidable livre sur le général de Gaulle, et Maurice m'a dit, tu vois, on a un nouveau gaulliste qui nous a rejoint.
Ouais. Il ne vous a pas proposé d'entrer à l'Académie française?
Non, je crois que je n'étais pas taillé pour, mais c'était un tel bonheur, cet ouais. homme, d'une telle vivacité d'esprit, et surtout, il adorait rire, quoi. Ouais. On entendait son rire tonner dans la salle.
Une autre rencontre, alors là c'est pas au Théâtre des Deux Ânes, mais ça va peut-être nous conduire à la prochaine chanson. C'est Jacques Brel, vous l'avez déjà cité tout à l'heure.
Oui.
Oui, Madame promène son cul sur les remparts de Varsovie, oui. Dans son dernier album,
oui,
je crois.
Oui, c'est ça.
Et pour vous, c'est un souvenir très, très précis aussi.
Oui, parce que j'ai eu la chance d'aller jouer à Tahiti avec Maurice Fanon, et je faisais mes débuts à l'Oreille en Coin, et un jour je reçois un contrat me disant de venir jouer à la Maison de la Culture de Tahiti. Et je dis à Kodo Igareto, ça m'ennuie de laisser l'oreille parce qu'il fallait qu'on parte au moins 15 jours. Et Pierre Kodo m'a dit, quand on a une opportunité comme ça, on y va. Et ta place est au chaud. Donc je suis parti avec Fanon. Et Fanon m'a dit, il y a Jacques Brel qui est un vieux copain de cabaret qui nous attend.
Ah ouais.
Et donc, c'était le bonheur.
Donc, sa période marquise, quoi.
Marquise. Voilà, ouais. Et on a passé 8 jours chez Paul Robert Toba, qui était son médecin, avec Jacques. Et il venait d'enregistrer ce fameux album, qui est son dernier album, qu'il a enregistré au studio Hoche, Les Marquises. Et Brel était un facétieux, il adorait les chansonniers. Et je sais que toutes ses tournées, il prenait un chansonnier en première partie.
Ah oui.
Et Maurice Orgue a fait pratiquement... toutes les premières parties en tournée de Jacques Brel. Et il a fait des kilomètres et des kilomètres avec Jacques. D'où cette chanson.
Madame promène son cul sur les remparts de Varsovie. Madame promène son cœur sur les ringards de sa folie. Madame promène son ombre sur les grands places de l'Italie. Je trouve que Madame vit sa vie. Madame promène à l'aube l'épreuve de ses insomnies. Madame promène à cheval ses états d'âme et ses lubies. Madame promène un con qui assure que Madame est jolie. Je trouve que Madame est servie. Tandis que moi, tous les soirs, je suis vestiaire à l'Alcazar. Madame promène l'été jusque dans le midi de la France. Madame promène ses seins jusque dans le midi de la chance. Madame promène son spleen tout au long du lac de Constance. Je trouve Madame de Cire Constance. Madame promène son chien, un boudin noir nommé Byzance. Madame traîne son enfance qui change selon les circonstances. Madame promène partout son accent russe avec aisance. C'est vrai que Madame est de Valence. Tandis que moi, tous les soirs, je suis barman à l'Alcazar. Madame promène son cheveu qui a la senteur des nuits de Chine. Madame promène son regard sur tous les vieux qui ont des usines. Madame promène son rire comme d'autres promènent leur vaseline. Je trouve que Madame est coquine. Madame promène ses cuites de verre en verre, de fine en fine. Madame promène les gènes de 20 000 officiers de marine. Madame raconte partout que l'on m'appelle Tata Jacqueline. Je trouve madame mauvaise copine. Tandis que moi, tous les soirs, je suis chanteuse légère à l'Alcazar. Madame promène ses mains dans les différents corps d'armée. Madame promène mes sous chez des demi-selles de bas quartier. Madame promène carrosse qu'elle voudrait bien me voir tirer. Je trouve que madame est gonflée. Madame promène banco qu'elle veut bien me laisser régler. Madame promène bijoux qu'elle veut bien me faire facturer. Madame promène ma Rolls que poursuivent quelques huissiers. Je trouve que madame est pressée. Tandis que moi, tous les soirs, je fais la plonge à l'Alcazar. Madame promène son cul sur les remparts de Varsovie. Madame promène son cœur sur les ringards de sa folie. Madame promène son nom sur les grandes places de l'Italie. Je trouve que madame vit sa vie. Madame promène à l'aube l'épreuve de ses insomnies. Madame promène à cheval ses états d'âme et ses lubies. Madame promène un con qui assure que madame est jolie. Je trouve que madame est servie. Tandis que moi, tous les soirs, je suis vestiaire à l'Alcazar. Madame promène l'été jusque dans le midi de la France. Madame promène ses seins jusque dans le midi de la chance. Madame promène son sprint au long du lac de Constance. Je trouve madame de cire Constance. Madame promène son chien un boudin noir de Mévisance. Madame prête son enfance qui change selon les circonstances. Madame promène partout son accent russe avec aisance. C'est vrai que madame est de Valence.
Oui, j'ai voulu la laisser jusqu'au bout parce que magnifique. Ces arrangements de François Robert magnifique. Sont si beaux. Je vois que vous connaissez aussi Jacques Maillot.
Et ça, c'était Jacques Brel qui en connaissait évidemment « Ne me quitte pas », toutes ces chansons « Jeff, t'es pas tout seul ». Mais il y avait ce côté très joyeux qu'il avait dans la vie. C'était un garçon qui cuisinait divinement bien et il avait ce côté farceur et cette chanson.
C'est vrai qu'on voit « Ne me quitte pas », le pathos, etc. mais c'était pas seulement ça.
Non, c'est un joyeux drill dans la vie, très agréable compagnon.
Et vous, quand je vois votre connaissance de la chanson et du musical, je me dis, mais au fond, mis à part On est cool, vous n'avez pas poussé beaucoup plus loin votre carrière de chanteur.
Non, je crois que je n'étais pas fait pour, donc je me suis arrêté là. J'avais fait une chanson pour la mairie de Paris, où on avait fait une parodie de Boire un petit coup, c'est agréable, quand il y a eu le fameux duel entre Jacques Chirac et Michel Dornano.
Ah, voilà.
Et c'était devenu la mairie de Paris, c'est drôlement chouette. La mairie de Paris, voilà.
Alors, chanson née de l'actualité. Est-ce qu'on peut dire que votre spectacle, qui est en ce moment donc aux Deux Ânes, avec Florence Brunol et quelques autres, est-ce que ce spectacle s'enrichit au fil de l'actualité? Les grèves, par exemple.
Ah oui, oui.
Chaque jour, il se passe quelque chose. Dans le spectacle aussi.
Oui, tout à fait. Ouais. Là, depuis quelques jours, je dis que Martinez, c'est un peu les moustaches de Staline sur le cerveau de Nabila.
C'est pas très gentil pour lui. on va avoir des ennuis.
Et donc on rajoute des choses au fur et à mesure. On rajoute tout ce qui se passe dans l'actualité. On le rajoute. Les gilets jaunes qui ont défilé encore il y a 15 jours devant le théâtre et qui c'était un défilé improbable où il y avait 30 malheureux gilets jaunes et il y avait au moins 250 CRS.
Ah oui.
Donc c'est assez disproportionné. Donc on voit tout ça, ça nous abuse, quoi, finalement.
Et le président, il en prend pour son grade?
Ah, le président, oui, je crois qu'il est habillé pour l'hiver, oui, oui.
Et les gens, ils ont besoin de rire, besoin.
En tout cas, il y a un équilibre entre Martinez et Macron.
Oui, parce que je dis qu'il a une tête de premier de la classe et qu'il sait pratiquement tout et que même le reste, il doit le savoir, quoi. Voilà.
Florence Brunol, vous êtes aussi heureuse tous les soirs d'y aller parce que quand on joue comme ça pendant des mois, il y a peut-être des jours où on a moins envie que d'autres. Non, pas du tout.
C'est une joie permanente, un besoin de donner, de faire rire. Et surtout en ce moment, dans cette période morose, vraiment, les gens sont heureux. Et il y a une ferveur. Moi, je sens une ferveur, là. C'est un thermomètre, hein, une salle de spectacle, c'est formidable. Oui. Et on sent
et
que...
Et la température est normale, 37, 36,
la température est beaucoup plus...
C'est 40,
oh là là là, c'est 40, là. 39,
c'est fiévreux.
Ouais. Oui, très fiévreux.
En tout cas, vous serez à l'affiche pratiquement tous les jours. Hein,
tous les jours, jusqu'au mois de juin, théoriquement.
Jusqu'au mois de juin.
Oui, en général, on fait 200 présentations.
Et vous-même, il n'y a pas un jour de, où vous avez moins envie qu'un autre?
Ah si, quelquefois, on est un peu fatigué quand même.
Ouais. Il y a les copains.
Il y a les copains, on s'aide. C'est l'avantage de la troupe. Ouais. C'est-à-dire qu'on n'est jamais seul et on se soutient les uns les autres. C'est très important.
Voilà, et on peut rappeler donc que vous êtes sur scène en compagnie de quatre autres artistes.
Hein, ouais.
Donc Michel Guidoni.
Michel Guidoni, qui est notre Corse de service, qui est un Corse qui travaille même les dimanches.
Un Corse qui travaille, mon Dieu.
Et les jours de fête également.
Et la visage découvert.
Voilà.
Donc Paul Durot.
Paul Durot, qui est le plus jeune d'entre nous, qui est un jeune garçon qui connaît très bien les chanceliers, donc qui s'inspire beaucoup de ses aînés, mais qui fait ses débuts dans notre théâtre, et on est très content d'être avec lui.
Et Gilles Détroit.
Alors Gilles, qui est un chancelier du quotidien, lui.
Ah oui.
Lui s'occupe de tout ce qui nous entoure, c'est-à-dire comment prendre un billet de train sur une borne à la gare de Lyon.
C'est un vrai sujet.
Et c'est un vrai et bon sujet. Et c'est très très drôle.
Et puis enfin, Émilie Anne-Charlotte.
Qui est notre petite chanteuse qui nous arrive du grand orchestre du Splendide.
Voilà.
Et qui donc est une superbe voix féminine dans la revue. Elle apporte beaucoup, beaucoup.
Les rayons de soleil.
Ouais.
Voilà, merci à tous les deux de maintenir vivante cette belle tradition parisienne.
Merci, cher Benoît.
Et on va aller vous applaudir. Et puis on va se quitter. Tiens, je crois que ça a encore un rapport avec l'histoire du théâtre des Deux Ânes, avec la musique de Borsalino, de Claude Bolligne.
Oui, parce que Claude est un habitué. Enfin, maintenant, il ne vient plus puisqu'il est un petit peu fatigué. Oui. Mais il venait voir tous les spectacles. Et surtout, il y avait un habitué qui était Jacques Deray, qui ne manquait jamais une revue. Jacques venait voir toutes les revues. Et après, on allait dîner chez Lip. Et il me disséquait toute la revue en disant « ça c'est bien, ça c'est moins bien, etc. »
Ça c'est du sérieux,
c'est bien. C'est du sérieux.
Merci à tous les deux et à bientôt sur la scène des Deux Ânes. Borsalino, la musique de Claude Bolline, un choix de mon invité Jacques Maillot, qui était ce matin ici avec Florence Brunold à l'occasion du spectacle qu'il donne en ce moment au Théâtre des Deux Ânes. On est mal, Macron, on est mal. C'est tous les jours le soir, donc du mardi au samedi, et puis également en matinée, le samedi et le dimanche, le Théâtre des Deux Ânes à Paris. Il suffit de cliquer le nom sur Internet pour avoir tous les renseignements.
Connais un doux pays où l'on vit tranquille. C'est un peu du paradis, oui, mais qu'y faut-il? Des oranges, du tabac, du café. Des oranges, du tabac, du café. Toujours couché sur le dos et le vent debout. À mi-voix, un peu de mots, on parle du goût. Des oranges, du tabac, du café. Des oranges, du tabac, du café, oh, si l'on a soif dans ce pays, oh oui. En ouvrant la bouche, on attend qui? Mais qui? La pluie, la pluie. On n'y trouve jamais d'or, pas même d'argent. On met dans les coffres forts pour payer comptant. Des oranges, du tabac, du café. Du tabac, du café. Allez! Si l'on a des pépins, c'est les oranges. C'est forcé. Dans les oranges, il y a toujours des pépins. Et si l'on éternue, c'est le tabac. J'avais une grand-mère que j'adorais et qui, si l'on est énervé, c'est le café. Le café! Oh, oh non, écoutez, non, non, qu'est-ce qu'il chante? C'est vous, c'est moi! Non, c'est pas au point ce truc-là, moi je m'en vais! Non, oh, oh, je connais un doux pays où l'on vit tranquille. C'est un peu du paradis, oui, mais qu'y faut-il?
Des oranges, du tabac, du café.
Des oranges, du tabac, du café. La balance que son cœur bat pour faire sa cour. Garçon sur un grand plan offre avec amour des oranges, du tabac, du café. Des oranges, du tabac, du café. Oh, je ne dis pas non du pays, ami, car si vous venez du paradis. Ah oui, fini, fini. Je dois vous faire un aveu qui me tient à cœur. Pour moi, tout serait pour le mieux. Oui, mais j'ai horreur des oranges. Oh,
du tabac, du café, des oranges.
Ah, les oranges, ça alors les oranges. J'aime autant vous dire que les oranges, ça, les oranges. Oh, les oranges.
Du tabac, du café, des oranges. Du tabac, du café, des oranges. Du tabac, du café, des oranges.
Ah, c'est bien elle aussi, la chère Suzy Delair. Je voulais lui donner ce second petit coup de chapeau à l'occasion de ses 102 ans. J'aime beaucoup cette chanson. Elle l'aime bien aussi d'ailleurs. Orange, tabac, café avec l'orchestre de Jo Moutet.
Étonnez-moi Benoît, Benoît Dutertre, France Musique.
Et puis à propos de spectacle, je voulais vous dire aussi que je suis allé dimanche dernier à l'Athénée voir Yes de Maurice Yvain. Alors vous savez que j'adore Maurice Yvain, qui est pour moi un des grands compositeurs du XXe siècle dans le domaine de l'opérette, peut-être le dernier très grand maître de l'opérette en France. Et je suis toujours heureux quand on monte un peu trop rarement ses œuvres. Et Yes, voilà, c'est vraiment un spectacle magnifique monté par la compagnie Les Brigands. C'est très vivant, c'est très enlevé, c'est très joyeux. Je rappelle que cette pièce de 1928 avait été créée avec simplement un accompagnement à deux pianos et puis quelques grands artistes comme notamment Arletty. Et là, eh bien, les Brigands ont fait une version avec deux pianos, mais aussi un vibraphone, une contrebasse, quelques percussions. C'est joué par Paul-Marie Barbier, Mathieu Bloch et Thibaut Perrière. Ça marche très très bien. Et puis les acteurs, la comédie elle-même sont vraiment irrésistibles. Les lyriques sont d'Albert Villemetz lui-même. Et parmi les chanteurs, eh bien, on peut citer Éric Boucher, on peut citer Flanant Aubé, Gilles Bugeaud, Anne-Emmanuelle Davy ou encore Emmanuel Goisé, qui donne vraiment beaucoup de vitalité à cette comédie très typique des années folles, très immorale à sa façon, avec comme toujours chez Yvain des finales merveilleusement enlevées. Malheureusement, il n'y a pas d'enregistrement de Yes, même à la radio. Alors du coup, eh ben, pour évoquer Yvain, j'ai ressorti un autre très joli final. C'est le final du deuxième acte de son opérette Là-haut, composé quelques années plus tôt. La situation, ce sont en somme trois créatures du paradis, trois anges qui doivent remonter avant minuit au ciel. Ils ont laissé passer l'heure et ils se posent quelques questions.
Mes amis, pas tant de bruit, tant de cris, il fait nuit, tout ici est endormi, je parie à Louis qu'il est minuit.
Si je fais du bruit et si je crie, ainsi la nuit, lorsque tout ici parle est endormi, c'est qu'à mon avis, et je parie au moins de Louis, avec vous et lui sans parti pris, qu'il n'est pas minuit, je le dis.
Eh bien, je vous contredis, car ma montre me dit, en dépit de vos cris et de votre parti pris, qu'on devrait être parti. Comme vous, cela m'ennuie de faire autant de bruit aussi tard dans la nuit. Mais avec vous, avec lui, je parie de sans lui, si tout est endormi, qu'il est plus de minuit.
Il nous dit que tout est endormi, c'est faux car tout est endormi, hormis nous trois, mes bons amis.
Oui,
tout ici. Mais si monsieur crie et fait du bruit,
est endormi.
En dépit de la nuit, je ferai comme lui.
Il est minuit.
Moi, je n'admets pas les montres qui avancent, ni les gens qui nient et qui parient, j'ai pas fini. Paris de sans lui, c'est inouï, alors qu'ils n'ont pas un radis. Uniquement ça, sous sa main, qu'il soit déjà plus de minuit.
Eh bien, je vous contredis car ma montre me dit, en dépit de vos cris et de votre parti pris, qu'on devrait être parti. Comme vous, cela m'ennuie de faire autant de bruit aussi tard dans la nuit. Mais avec vous, avec lui, je parie de sans lui, si tout est endormi, qu'il est plus de minuit.
Je fais du bruit et si je crie ainsi la nuit, lorsque tout ici parle est endormi, c'est qu'à mon avis et je parie au moins de lui, avec vous et lui sans parti pris, qu'il n'est pas minuit, je le dis.
Mes amis, pas tant de bruit, tant de cris, il fait nuit, tout ici est endormi. Mes amis, il est minuit.
Mais je viens d'y penser, depuis que l'on a commencé,
c'est insensé, nous sommes bien avancés.
Il est, j'en suis renversé,
minuit passé.
Mais je viens d'y penser, depuis que l'on a commencé,
c'est insensé, nous sommes bien avancés.
Il est, j'en suis renversé,
minuit passé,
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 minuit
passé,
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 minuit
passé,
minuit
passé.
Entends-tu Saint-Pierre qui gronde?
Attends un peu que je lui réponde. Allons, monsieur Saint-Pierre, entrez votre tonnerre. Assez de pétards, on sait bien qu'on est en retard. Ne criez pas si haut, là-haut. Nous remontons au galop, là-haut. Quittez ce tambouru, chut, il m'a entendu. Ce bon Saint-Pierre, vois-tu, sais-tu?
Ces gens-là sont des phénomènes.
Dépêchons-nous, je vous emmène.
Mais comment pour remonter allons-nous faire?
Cela c'est mon affaire, vous n'avez qu'à m'imiter. Le vol aérien, regardez bien, cela n'est rien.
N'est rien.
L'important pour voler, c'est de bien décoller. Mais en décollant, pour que nous prenions de l'élan.
L'élan.
Prenons, c'est plus prudent, un petit banc. Avec de la volonté, il suffit de contracter ses côtes, les deux coins aux côtés. Et puis avec légèreté, il faut tout le temps répéter, je saute, je saute, je saute et vous sautez.
Avec de la volonté, il suffit de contracter ses côtes, les deux coins aux côtés. Et puis avec légèreté, il faut tout le temps répéter, je saute, je saute, je saute et vous sautez.
Et les habitués ont reconnu toute la troupe de Radio Lyrique dans ce final deuxième acte de Là-haut, enregistré en 1971 sous la direction de Marcel Carivène. Vous savez que Arthur Honegger comparait les finales de Maurice Yvain à des finales de Haydn. Et encore là, on a entendu une version un peu concentrée parce que, en fait, le final se développe d'une façon tout à fait merveilleuse qu'avait très bien rendu il y a quelques années la troupe de Jean-Paul Lucet au Célestin de Lyon, qui avait monté avec beaucoup de succès ce Là-haut, Là-haut qui se passe au paradis, mais le seul, le vrai paradis, vous savez, c'est Paris, donc le paradis ressemble aux Folies Bergères dans cette merveilleuse opérette que j'espère bien voir un jour sur une scène parisienne. En attendant, eh bien, il faut aller voir donc ce Yes également de Maurice Yvain, ce Yes qu'on peut voir à l'Athénée encore pendant quelques jours et puis qui va partir en tournée dans toute la France. C'est une production des Brigands, du Palazzetto Bruzane et du Théâtre de l'Athénée. C'est vraiment un spectacle qui fait du bien, qui remonte le moral et qui met en bonne santé. Et puis tiens, avant de nous quitter, je voudrais aussi simplement vous annoncer deux émissions exceptionnelles pour les deux prochains samedis. J'aurai la joie d'être en compagnie de Jean-Jacques Debout pour évoquer sa formidable carrière commencée au temps de chevalier, de traîné, de Jacqueline François qu'il a connu tous alors qu'il était tout gamin et coursier aux éditions Raoul Breton, et puis sa carrière de chanteur à succès et puis toutes ses chansons qu'il a écrites pour ses amis Johnny Hallyday, Sylvie Vartan, Dalida, etc. Il a une mémoire merveilleuse, Jean-Jacques Debout, et de l'entendre raconter comme cela plus d'un demi-siècle de la chanson française. C'est un plaisir donc auquel je vous invite au cours des deux prochaines émissions spéciales d'Étonnez-moi Benoît. Nous allons maintenant nous quitter avec, tiens, encore une musique bien tonique et même irrésistible. C'est l'ouverture de Sémiramis de Rossini sous la direction d'Arturo Toscanini.
Thank you.
Voilà, dans le genre flamboyant, je crois qu'on fait difficilement mieux que cette ouverture de Semiramis de Rossini par l'orchestre NBC sous la direction d'Arturo Toscanini. Et c'est ainsi que s'achève Étonnez-moi Benoît, une émission de Benoît Dutertre préparée par Annie Comier, avec aujourd'hui à la technique Alexandre Billard et Antoine Giraud, réalisation Christine Amado. Et donc, rendez-vous samedi prochain pour la première de ces deux émissions spéciales en compagnie de Jean-Jacques Debout. D'ici là, je vous souhaite à tous un très bon week-end sur France Musique, où vous avez rendez-vous maintenant avec Sébastien Linares.
À réécouter sur francemusique.fr.